regardez régulièrement MacG ou que vous êtes abonné au club Hygiène, il y a de fortes chances pour que vous ayez déjà un pied dans l'univers de la domotique. Que ce soit via HomeKit, Google Home ou encore Alexa, les solutions sont nombreuses pour connecter sa maison du sol au plafond. Il y a quelques temps, nous avons publié une longue série faisant le tour de Home Assistant. Cette solution open source nécessite un peu plus de bidouille étant donné qu'il faudra l'installer sur un ordinateur chez soi. Une fois cela fait, elle permet d'aller plus loin que la solution d'Apple en venant complètement remplacer HomeKit. Comment ça fonctionne et est-ce que le jeu en vaut la chandelle? C'est ce que nous allons voir dans ce nouvel épisode de Kernel Panic. Pour en discuter, je suis en compagnie de Nicolas qui a rédigé l'intégralité de la série donc sur Home Assistant et qui est depuis quelques années l'expert domotique de MacG. Salut Nicolas.
Salut Félix, bonjour tout le monde.
Et je suis également avec Cédric, notre développeur web dont la maison est entièrement automatisée. Salut Cédric.
Salut Félix et bonjour à tous.
Eh ben, on va commencer déjà par rappeler peut-être ce qu'est Home Assistant, parce que moi, de mon côté, je ne connais pas grand-chose en domotique, je vais pas vous mentir. Donc, si j'ai bien compris, j'ai lu la série de Nicolas, c'est une alternative à HomeKit, un petit peu.
On peut dire ça, oui.
Ouais.
C'est une solution de domotique, effectivement, qui peut concurrencer, enfin, qui concurrence HomeKit, Google Home, Alexa, tout ce que tu as cité, et ouais. Qui peut les remplacer entièrement. Alors, une des forces de Home Assistant, mais qui peut aussi faire peur au début, c'est que c'est très souple. Donc, ça peut remplacer complètement les autres, mais ça peut aussi les complémenter, ça peut les additionner. On en reparlera peut-être dans le fil du podcast.
Ouais.
Ce qu'il faut retenir au départ, c'est que c'est quelque chose. Donc, c'est open source, comme tu as dit. C'est très souple. Il y a énormément d'options pour arriver à faire ce qu'on veut en domotique. Mmh. Il y a une très grosse communauté aussi de développeurs qui travaillent dessus. Donc, voilà, c'est quelque chose de. Par rapport à HomeKit, par exemple, qui est assez fermé sur l'univers d'Apple, là, c'est le contraire, on peut tout faire dedans, c'est très ouvert.
Ok, ouais. Mais moi, par exemple, je n'y connais pas grand-chose en domotique, pourquoi est-ce que j'irais plutôt sur Home Assistant plutôt que sur HomeKit ou un truc un peu plus standard?
Ben écoute, je pense qu'à la fin de ce podcast, tu seras convaincu, mais il y a pas mal d'arguments en faveur de Home Assistant.
Ce qu'on pourrait se demander aussi, c'est pourquoi on a choisi Home Assistant plutôt que d'autres solutions open source comme JDOM ou...
Il y en a d'autres.
Voilà, qui sont plus vieilles.
Ouais.
Arrête, on va lui faire peur. Il y a beaucoup d'options, mais ouais. Oui, après, voilà, après, c'est personnel aussi, mais c'est vrai que moi, j'ai jamais testé vraiment les autres. Okay. Mais effectivement, JDOM, c'est un peu un gros en France parce que bah, c'est une solution française à la base.
Ouais.
Alors pourquoi moi, j'ai choisi plutôt Home Assistant c'est un peu une histoire de perception. JDOM, c'est une solution qui m'a semblé plus lourde. C'est basé sur. Notamment du code en PHP, c'est un peu plus monolithique, j'ai trouvé. C'est un peu moins, il y a une communauté un peu moins grosse aussi.
Ouais.
Il y a des produits qui sont moins bien gérés, etc. Mais après, il n'y a pas forcément une seule bonne réponse. Un des points forts de Home Assistant, c'est qu'il est mis à jour constamment, ce qui lui permet, par exemple, de rester au plus près des derniers standards. Donc, un bon exemple, c'est Matter, le nouveau standard de domotique qui est en train de s'imposer. Il y a régulièrement des mises à jour pour Matter qui ajoutent des fonctionnalités. Et jusque-là, à chaque fois, Home Assistant est bien en avance par rapport aux autres. Mmh. Par exemple, la dernière version, là, je crois qu'on en a la 1.2. En tout cas, cette version-là est déjà prise en charge par Matter depuis quelques mois, alors qu'Apple, il n'en est toujours pas question pour l'instant.
Ok, ouais.
Et moi, j'ai essayé JDOM. Y avait une grosse partie de feeling sur Home Assistant. C'est pour ça que j'ai switché très rapidement sur Home Assistant. Vraiment le feeling, l'interface, les deux trois philosophies, j'adhérais plus. Enfin, ça m'a semblé plus simple à rentrer dedans, même si ça reste un peu velu, on y reviendra. Mm-hmm. Mais ouais, JDOM, j'avais un peu l'impression que c'était un peu archaïque. Enfin, je veux pas blesser les gens qui utilisent JDOM, mais j'avais l'impression que c'était une grosse machine qui datait, qui avait peut-être besoin d'une refonte complète. Et en fait, Home Assistant apporte un peu de fraîcheur.
Ouais.
Enfin voilà, ouais, du coup.
Oui, mais les deux sont à peu près. Enfin, c'est pas qu'ils sont aussi vieux, je sais plus qui est le plus vieux ou l'un, mais il n'y a pas une grosse différence de ce côté-là. Mais JDOM est plus statique, oui. Ça okay. bouge moins et l'interface, effectivement, évolue moins. Bon. Après, ça, c'est une question, effectivement, de goût. Bon, on va pas.
Ouais. Et donc, pourquoi vous avez abandonné HomeKit? Qu'est-ce que ce truc-là a de plus que HomeKit, par exemple?
Alors, moi, j'ai pas abandonné HomeKit.
T'as pas abandonné HomeKit, ok.
Non, moi, j'utilise encore HomeKit. Pour les personnes de mon foyer, c'est-à-dire que Home Assistant me sert de base vraiment un peu tout ce qui est l'arrière-plan de ma domotique, mais tout ce qui est utilisation par les utilisateurs, j'utilise quand même HomeKit parce que je trouve ça, bah déjà c'est intégré de base dans les iPhones, donc ouais. C'est plus simple de dire à ma conjointe par exemple, bah tiens, Si tu veux régler la lumière, tu vas dans l'application maison, t'as pas besoin de créer de compte. Il y a déjà ta lampe avec la pièce chambre qui est déjà créée.
Ouais, ouais.
Voilà. Après, tout ce qui est automatisation et configuration, voilà, des interrupteurs, des choses comme ça, ça j'y gère dans MyAssistant. Donc moi, j'aime bien utiliser HomeKit comme une partie un peu interface utilisateur, vraiment le dernier palier avant l'utilisateur. Moi, j'utilise les deux. J'utilise l'application MyAssistant et HomeKit en fonction de mes besoins.
Ouais.
Mais c'est vrai que pour des gens qui... je trouve quand même l'application Apple, pour les gens qui pratiquent pas la domotique, enfin des applications un peu complexes, HomeKit reste très très simple quand même pour juste mettre une luminosité, une couleur de lumière, gérer 2-3 trucs, le basique, chauffage, tout ça.
Tu utilises plus l'application maison que HomeKit si on veut technique, mais oui
c'est
un gros avantage, la souplesse de Home Assistant. Ouais. Ça peut être en fait comme Obridge pour ceux qui connaissent. Donc ça peut être converti, enfin ça peut le routeur Home Assistant, quoi, son installation peut être transformée en un pont HomeKit officieux, pas officiel mais officieux, effectivement ça marche très bien. Après moi j'ai abandonné plus l'app maison, alors c'est pas que je l'ai abandonné réellement parce que je pourrais faire comme Cédric. Là j'ai plus eu la flemme de le faire parce que à la base j'utilisais effectivement HomeKit depuis des années maintenant, ça fait de quelques années que je faisais de la domotique uniquement avec HomeKit et uniquement avec des produits compatibles. J'ai testé un moment Homebridge et puis à la fin j'avais vraiment que du compatible. Et j'étais assez... mon passage sur MyAssistant, en gros, déjà je peux dire que j'ai profité d'un déménagement parce que changer la domotique en cours de route, c'est un peu compliqué. C'est plus facile, je trouve, de repartir de zéro. Donc là, j'ai eu la chance, l'opportunité en tout cas de repartir de zéro avec un déménagement. Donc ça m'a... Je me suis dit, plutôt que de tout recommencer avec maison, tiens, je vais essayer Home Assistant.
Ouais.
Et il y a plusieurs raisons qui m'ont fait abandonner maison. Je dirais que la raison la plus importante, c'est le manque de fiabilité pour moi. C'est-à-dire qu'on peut faire beaucoup de choses avec maison, il n'y a pas de problème. On peut en faire beaucoup plus avec Home Assistant, je pense qu'on y reviendra, mais on peut faire beaucoup avec maison. Par contre, si tu as une automatisation, par exemple, qui ne se lance pas, va savoir pourquoi. T'as aucun retour, t'as aucune information, et quand tu as une grosse installation dans maison, une grosse installation HomeKit avec beaucoup d'appareils et beaucoup d'automatisation, ce qui était mon cas, tu te rends compte que c'est pas si fiable que ça en fait. C'est assez souvent que ça bloque, ça plante. D'un coup, toutes les automatisations cessent de répondre. En général, ça c'est lié à une mise à jour, typiquement. Par exemple, le HomePod qui est pas à jour, ou le HomePod qui s'est mis à jour avant le reste, ou ce genre de choses. Mais c'est très difficile de savoir qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi. On n'a pas de regard comme ça sur un peu global sur la domotique. Et puis dans mon cas, en plus, je dois tester les bêtas tous les ans. Et à chaque bêta d'iOS, des iPhones, etc., on a une bêta de HomeKit. C'est lié, il n'y a pas de décorrélation. Et donc à chaque fois, tout peut casser. Ce n'est pas qu'une théorie, c'est souvent, ça m'est arrivé qu'en juin, juillet de chaque année, je perds toute partie de ma domotique. Et ça, c'est très chiant quand tu dépends c'est très embêtant quand tu dépends d'une installation, d'une maison connectée, et que d'un coup, y a des trucs qui marchent plus, quoi.
Ouais, je l'ai remarqué à la rédac, j'ai l'impression que dès que quelqu'un touche à l'Apple TV du bureau, ou fait une mise à jour ou quoi, ça fait sauter la moitié de la domotique qu'on a d'installer.
Ça, et puis les HomePod qui sont un peu capricieux, ils perdent des fois la connexion, et tu sais pas trop pourquoi, mais c'est assez pénible.
Je rajouterais un truc, du coup. Moi aussi, pour rebondir sur ce que tu dis, Nicolas, j'ai abandonné... j'ai abandonné HomeKit du coup là aussi pour la latence. Donc moi, maison neuve, j'avais fait le choix, alors on pourra, c'est un choix discutable, de ne pas mettre d'interrupteur filaire sur le réseau électrique, de directement mettre des interrupteurs connectés qui pilotent des ampoules ou des micro-modules. Et au début, je m'étais dit, je fais tout avec HomeKit. Et très vite, j'ai déchanté parce que on avait une latence de fou entre le moment on appuie sur l'interrupteur et ça donne la commande à l'ampoule. Parce que interrupteur Aquara HomeKit, il suffit qu'en plus ça soit un HomePod qui prenne le relais. Du coup, on passe en Wi-Fi, du coup, on rajoute un peu de latence par rapport à l'Ethernet de l'Apple TV. Puis, on discute avec le pont Hue pour la lampe. Au final, on avait des latences de fou. Et du coup, tu rajoutes à ça la fiabilité où des fois tu appuies. Là, tu te dis, il y a un truc qui va pas. Ah oui, il doit réveiller le HomePod, machin, truc. Du coup, ça met 2-3 secondes avant d'avoir la lumière dans les toilettes. J'ai vite abandonné.
Tu sens que maison est très bien pour des petites installations, mais qu'ils n'ont pas fait évoluer le truc depuis. C'est vrai qu'il y a des choses dans maison qui n'ont pas changé depuis le début. En réalité, il y a eu des améliorations d'interface, des choses comme ça, mais de manière fondamentale, C'est vrai qu'il y a, il y a des... Moi, je... Enfin, bon, il y a des fonctions qui me manquaient dans Maison et qui n'ont jamais été ajoutées. Et je pense qu'Apple s'y intéresse que moyennement, on va dire. Mais bon, c'est pas un podcast sur Maison, faut peut-être que...
Oui, ouais.
On parle de Home Assistant.
Pour revenir sur Home Assistant, toi, de ce que j'ai compris, en gros, l'installation, ça passe par un ordinateur ou un Raspberry Pi ?
Un ordinateur, ça c'est sûr. Après, peu importe l'ordinateur. Il y a plusieurs méthodes pour installer. On peut dire que la plus simple à la plus compliquée, la plus simple, c'est t'achètes un ordinateur qui est fait pour Home Assistant. Donc, c'est les créateurs en fait, du projet qui proposent. Alors, il y a plusieurs options avec des couleurs, mais en gros, pour faire simple, c'est des Raspberry Pi avec Home Assistant préinstallé. Ouais. Donc là, c'est vraiment un peu comme une box domotique classique. Tu la reçois chez toi, tu la branches en général en Ethernet parce que c'est plus fiable. Et voilà, tu te connectes avec ton navigateur, etc. Donc ça, c'est le plus simple. La solution simple, c'est de prendre ton propre Raspberry Pi, si t'en as un, ou d'en acheter un, et d'installer Home Assistant, alors Home Assistant OS, donc le système d'exploitation Home Assistant dessus.
Ouais.
Donc ça, c'est la solution, celle que j'ai recommandée par exemple dans le guide. Si tu veux pas t'embêter, c'est ce qu'il y a de mieux. Et après, il y a des options plus complexes, alors soit Home Assistant supervisé, soit Home Assistant en conteneur, donc avec Docker. Bon, on va pas rentrer dans les détails en podcast, mais ça, c'est un peu des options qui existent, qui sont pas forcément à recommander pour la majorité des gens, mais qui sont possibles dans certains cas particuliers.
Si on a déjà Docker, ça peut être intéressant de faire tourner Home Assistant dans Docker, par exemple, s'il y a des gens qui ont déjà des serveurs chez eux. Ça ne doit pas courir les rues, mais voilà, s'il y a déjà des gens qui ont du Docker, peut-être que pas besoin d'acheter un Raspberry en plus. Là, Docker ferait l'affaire.
Ouais. Okay. Ça ou un NAS ou ce genre de choses.
Et HAOS, ça apporte quelque chose ? Je me posais la question toujours.
Ça apporte beaucoup de choses, ouais. Donc le système d'exploitation de Home Assistant. Alors, pour faire simple, quand on utilise cette voie, il faut que tout l'ordinateur soit dédié à Home Assistant. Alors, on peut faire des machines virtuelles à l'ancienne un peu. Donc avec par exemple le Proxmox, c'est une solution assez courante, mais bon, pour faire simple, tu décides que tout le matériel est géré par Home Assistant, c'est lui qui est au centre de tout. Ça t'apporte quelques avantages pratiques, même beaucoup d'avantages pratiques, notamment on peut parler tout de suite par exemple que c'est lui qui est capable de gérer ses propres sauvegardes et surtout de restaurer des données. Donc si tu as un problème avec Home Assistant OS et si tu as une sauvegarde, tu peux à tout moment dire, bon bah je reviens en arrière, je reprends ma sauvegarde, je sais pas, d'hier, avant-hier, peu importe, la plus récente, et tu repars comme ça directement. Alors que si tu suis une autre voie comme Home Assistant Docker, là c'est à toi de te débrouiller, tu pourras faire des sauvegardes, tu pourras les restaurer, mais tu dois te débrouiller de ton côté, quoi. C'est pour ça que je dis, de manière générale, il vaut mieux rester sur Home Assistant OS. Il y a d'autres avantages, on en parlera peut-être par la suite, mais avec les modules, etc. Enfin, disons que c'est la voie recommandée par les créateurs de Home Assistant pour une bonne raison.
Ouais.
C'est la plus simple et la plus puissante.
C'est donc, la porte d'entrée, quoi. Vaut mieux rentrer par là, maîtriser déjà un peu ce qu'on a avec ça.
Oui, tout à fait.
Et après, voilà, si on veut aller plus loin.
Moi, j'ai commencé comme ça, effectivement. Je suis passé peut-être 6-8 mois avec Home Assistant OS. Et là, j'ai fait un article dessus, et c'était plus un défi qu'autre chose, mais je suis passé sur Home Assistant Docker. Mais honnêtement, je ne le recommanderais pas spécialement. Moi, c'est aussi parce qu'on travaille ensemble avec Cédric côté serveur, donc on maîtrise un peu Docker, etc. Donc c'était une manière aussi d'appliquer des connaissances, d'étendre un peu mes connaissances de ce côté-là.
Ouais.
Mais voilà, je ne dis pas que c'est la meilleure option, je ne pense pas que ce soit le cas.
Et ne serait-ce que, petite parenthèse, c'est pour connecter, par exemple, des clés avec les protocoles radio, Zigbee, tout ça, c'est quand même plus simple avec HAOS qu'avec Docker, non ? Enfin, est-ce que ça...
Oui, bah tout à fait, parce qu'en fait, Docker, ça reste de la virtualisation, même si c'est une couche plus légère, mais ça reste de la virtualisation. Et Home Assistant OS installé directement sur le matériel, il peut communiquer avec l'ordinateur, et donc si tu as une clé USB branchée dessus, ça peut même être une clé Bluetooth, par exemple, hein, ça peut être un peu tout ce qu'on veut, et du coup, la communication se fait directement, c'est facile. Si tu rajoutes une couche de virtualisation, où qu'elle soit, ou peu importe comment ça marche, il va falloir connecter en quelque sorte d'abord l'USB à cette couche de virtualisation. Donc oui, ça ajoute de la complexité aussi à ce niveau, effectivement.
Ok, donc admettons, vous m'avez convaincu, je me dis très bien, je vais commander un petit boîtier Home Assistant pour faire tout mon setup chez moi. Est-ce que c'est facile à utiliser ou c'est compliqué à mettre en place ?
Alors c'est difficile de répondre à cette question de manière générique. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut avoir quand même l'esprit, il faut, je pense que c'est bien d'en parler tout de suite, il faut avoir l'esprit assez geek. Il faut ne pas avoir peur de bidouiller. Il faut bien lire les documentations, c'est très important. C'est vrai qu'il y a des choses essentielles dans les documentations qui te disent ça c'est possible, en le faisant comme ça, ça c'est pas possible, voilà. Et c'est à tous les niveaux. C'est par exemple, effectivement, il y a une excellente prise en charge matérielle. Je pense qu'on y reviendra, donc il y a vraiment beaucoup de choses qui sont gérées, mais parfois, tu as des choses qui ne sont pas gérées de la même manière qu'avec HomeKit, voire pas du tout comme avec HomeKit. Des trucs à connaître comme ça. Et puis par ailleurs, toute la partie configuration, toute la partie peut nécessiter quand même de temps en temps de bidouiller un peu du code, de manipuler un petit peu. Même si de plus en plus ça se fait par une interface graphique, comme disait Cédric tout à l'heure, l'application maison c'est incomparablement plus simple. Et voilà, si tu y vas en te disant je veux avoir un truc aussi simple que maison mais plus puissant, non, ça sera pas le cas, c'est pas fait pour toi.
D'accord.
C'est vrai que l'installation d'HAOS, par exemple, si on prend l'exemple d'un Raspberry Pi ou même d'un... En fait, de lancer Home Assistant, ça va être hyper facile, mais quand même, tu peux vite être confronté à un mur et c'est là où la doc est hyper importante. Je pense que c'est même un automatisme à avoir dès que tu veux ajouter un appareil. Faut pas tout de suite, parce que c'est assez facile d'ajouter l'appareil. Tu cliques, hop, t'as l'appareil. Et d'un coup, t'es confronté à un mur, tu dis mais pourquoi ça marche pas ? Vraiment la bonne pratique, je pense, c'est d'abord je vais lire la doc, je vais voir, parce qu'en plus on peut avoir plusieurs intégrations pour un même produit, mais voilà, lire la doc, voir si ça convient à ce que j'ai besoin de faire avec, et après on rentre sur Home Assistant et on ajoute le produit.
Okay.
C'est vraiment le truc, moi j'ai été confronté, je lis la doc, dans... En tant que dev, on a un peu l'habitude de ça, mais c'est vrai qu'avec Home Assistant, on se dit, ah bah c'est peut-être comme HomeKit, on peut se débrouiller en clic-clic, en fait, non.
Non, pas plus que ça.
Il y a quand même pas mal de trucs où tout de suite aller mettre le nez dans la doc.
Ok.
Ils mettent des petits icônes d'aide à peu partout. Faut pas hésiter à cliquer sur le petit point d'interrogation, ça nous redirige vers la doc, c'est quand même pratique, ouais.
Ok. Et niveau compatibilité, ça marche comment ? Parce que pareil, il y a un petit badge Home Assistant sur les appareils domotiques que t'as.
Donc ça arrive, ça peut exister, j'ai vu quelques produits, alors pas vraiment un badge sur l'emballage, mais plutôt sur le site web du fabricant, un badge Home Assistant, ça existe. Alors faut savoir qu'il y a plusieurs catégories, on va dire, d'objets que tu peux ajouter Home Assistant. On peut commencer par les meilleurs, entre guillemets, les plus simples, ceux justement qui gèrent officiellement Home Assistant, soit au minimum qui n'ont pas de religion, entre guillemets, qui gèrent tout le monde. Mais vraiment tout le monde, parce que tu trouves plein d'objets qui sont Google Home, HomeKit, Alexa, ça existe, mais l'étape d'après, c'est vraiment ceux qui gèrent les systèmes domotiques open source comme Home Assistant. Alors je peux donner quelques exemples de marques comme ça, un peu typiquement il y a Sonoff, qui fait plusieurs produits qui gèrent un peu tout. En France, on en a un qui s'appelle Nodon, N-O-D-O-N. Donc ça, c'est pas mal aussi. Ils ont toute une gamme de produits qui sont vachement bien pris en charge. Ou encore, là, dernièrement, j'ai testé pour un article un compteur qui s'appelle Owon, alors O-W-O-N. Bon, les marques, c'est souvent compliqué. Mais ça, c'est trois noms où voilà, t'es à peu près sûr d'avoir quelque chose qui sera compatible avec Home Assistant.
Ouais.
Après, t'as tout le catalogue existant. Donc là, le vaste catalogue, par exemple, Cédric citait tout à l'heure ça. Donc ça, c'est parfaitement pris en charge. De toute manière, You est partout, mais ça marche soit directement avec le hub du fabricant, puisqu'il y a besoin, comme c'est des ampoules en Zigbee, on y reviendra peut-être après, mais voilà, c'est un truc un peu spécial, il y a besoin d'un pont pour communiquer avec elle, donc tu peux utiliser le pont de You et ça marche. Pareil avec IKEA, c'est un peu la même idée, donc Threadfree, tout ça, leur écosystème. Par contre, alors ça dépend, là c'est un peu compliqué de le savoir à l'avance. Moi j'ai réalisé, j'en ai encore énormément d'appareils en Akara, donc les Chinois Akara, et eux ils sont pas pris en charge par Home Assistant par défaut. Il faut absolument en fait intégrer le Zigbee dans Home Assistant, c'est un peu plus compliqué. Et puis d'une marque à l'autre, d'un produit à l'autre, tu peux avoir des problèmes. Alors ça c'est pas forcément connu à l'avance, c'est pas facile de le savoir à l'avance, c'est un peu en lisant la doc, en lisant les retours des utilisateurs. Mais j'ai des exemples comme ça un peu bêtes, par exemple IKEA ça marche très bien, mais j'ai des ampoules qui s'éteignent pas toujours quand tu leur demandes de s'éteindre, c'est un bug connu, et j'ai un détecteur de mouvement dont la pile, en gros, enfin l'autonomie est d'un mois avec Home Assistant, alors que normalement c'est 6 mois ou un an, donc voilà.
D'accord.
Ça c'est un peu pénible. Ah oui, puis aussi des interrupteurs qui ne répondent pas du premier coup, donc en fait, surtout sur ce sur pile, t'appuies une première fois, ça le réveille, et t'appuies une deuxième fois, il fait l'action. Voilà, t'as des trucs comme ça à connaître.
Ok, donc ouais, il faut mais bien se renseigner avant de passer une commande, quoi. Mm.
Voilà, comme on disait tout à l'heure, la documentation, la documentation, la documentation. Donc typiquement, quand tu veux un écosystème complet, genre You, ils ont une page en fait intégration Home Assistant, donc tu tapes le nom de ta marque que tu veux, il va te dire c'est géré ou pas. Donc par exemple, You, tu vas avoir une fiche, Acara, tu vas pas en avoir. Donc là déjà, si t'en as pas, bon. Et après, bah, si tu veux rentrer un peu dans les détails, les appareils en Zigbee, par exemple, ils sont gérés de manière un peu différente, on pourrait y revenir. Et dans ce cas, bah, tu vas regarder la manière dont tu gères tes appareils Zigbee, est-ce qu'eux, ils prennent en charge typiquement un produit Acara, parce que c'est du Zigbee, ouais. Là, tu sauras que oui ou non.
D'accord.
Mais si tu pars sur un appareil Wi-Fi, un autre domaine, là, c'est plus facile, parce que l'appareil Wi-Fi, il est connecté en direct à ton réseau. Ton home assistant, il est aussi sur le réseau. Donc là, les deux communiquent. Ça, c'est facile. En apparence, c'est ce qu'il y a de... On pourrait dire c'est l'idéal. Après, il faut se méfier parce que ces appareils-là, en général, ils nécessitent de créer un compte dans une application. Chaque marque a son compte, chaque marque a son application.
Ah, oui.
En réalité, moi, je trouve que les appareils Wi-Fi, ça peut vite devenir galère.
Oui, oui.
Et puis, tant qu'on parle des galères, je pense qu'il faut qu'on évoque aussi les appareils Thread. Et oui, les appareils Thread, en tout cas.
Oui.
Donc ça, c'est le successeur, entre guillemets, du Zigbee. C'est un peu une norme qui a été dérivée du Zigbee. Mmh. C'est censé être le nouveau standard, mais les deux restent. Et aujourd'hui, il faut le dire simplement, c'est un peu la galère avec Home Assistant. La gestion directe marche mal, voire pas. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on utilise un autre appareil Thread, par exemple un Apple TV ou un HomePod, pour se connecter à l'appareil. Et après, Home Assistant se connecte cet appareil via le HomePod ou l'Apple TV.
Ça devient compliqué.
Et ça... Ouais. Non seulement c'est compliqué, mais si encore ça marchait, mais ça c'est moi les appareils les moins fiables que j'ai, c'est les Threads qui se connectent en HomeKit via Apple TV, HomePod. C'est un peu l'enfer ça. Je sais pas si toi Cédric t'as une expérience de ce côté.
J'ai des appareils Eve qui sont Threads et du coup c'était un peu le seul moyen d'y mettre sur Home Assistant. Et en fait c'est tellement lourd et tellement approximatif que j'ai vite abandonné en me disant restons sur des protocoles qui sont ouverts, documentés et simple à mettre en place comme le Zigbee.
C'est vrai qu'en Thread, moi j'ai aussi tous les Nanoleaf. Ça m'arrange bien d'avoir tous ces produits pour pas les remplacer tous, mais oui, petit à petit, je me dis ça, il va dégager parce que c'est effectivement ce qui pose pas mal de problèmes. Donc ça, faut le savoir, ouais, c'est pas idéal.
Et je rajoutais un truc sur ce que tu as dit tout à l'heure. En plus, si par exemple on parle juste d'interrupteur, que ça soit Bluetooth, Zigbee, peu importe le protocole, chaque interrupteur ne réagit pas pareil, ils n'ont pas les mêmes fonctionnalités en plus entre eux, c'est assez... Il faut vraiment lire un peu la documentation de chaque interrupteur, comment elle a été documentée sur Home Assistant par exemple, pour voir ce qui va se passer quand on va cliquer sur un bouton, parce qu'il y a des boutons, des fois c'est juste... ça peut envoyer ce qu'on appelle un toggle, c'est-à-dire juste une inversion d'état. Donc il y a des interrupteurs qui gèrent cette fonctionnalité-là, alors qu'il y en a d'autres de base qui ne le gèrent pas.
Mais en fait, c'est lié au Zigbee, ça. Donc le Zigbee, c'est une norme, un protocole réseau sans fil très répandu dans la domotique. C'est ce qui est utilisé par You, par IKEA, par Acara, par bien d'autres. Donc tous ces écosystèmes, là où il y a besoin d'un pont en fait, propriétaire, en général, il y a des exceptions, mais en général, c'est du Zigbee. Et avec Home Assistant, un des avantages, donc une des souplesses apportées par cette solution, c'est qu'au lieu d'utiliser le pont du constructeur, tu peux acheter en quelque sorte ton propre pont. Alors dans le vocabulaire, on dit un coordinateur Zigbee. Le plus simple, c'est une clé USB avec une grosse antenne derrière que tu branches sur ton Raspberry Pi ou voilà sur l'appareil qui fait tourner Home Assistant. Et ce truc-là est capable de parler le Zigbee, sachant que le Zigbee, c'est un standard plus ou moins ouvert. Alors c'est un peu compliqué, mais simplifions. C'est un standard ouvert. Et donc une fois que tu as cette clé Zigbee, tu peux te connecter aux appareils Zigbee également et communiquer avec eux directement sans le pont du constructeur. Et après, comme disait Cédric, tu peux même faire des liens entre certains appareils Zigbee en direct. Donc ça, c'est assez puissant parce que ça réduit la latence et augmente la fiabilité.
Ok, ouais.
Peut-être dire quand même, rappeler que les avantages du Zigbee, c'est une norme de communication sans fil comme le Wi-Fi. Mais avec l'avantage que c'est un réseau maillé qui s'étend en fonction des appareils. Donc concrètement, dans un réseau Wi-Fi, tu as le routeur et après tous les périphériques qui se connectent au routeur et c'est tout. Donc ta portée, elle dépend du routeur en gros. Tu peux en avoir plusieurs si tu as plusieurs routeurs, mais voilà, ça dépend toujours des modules de base. Là, c'est pas comme ça que ça marche. T'as le coordinateur Zigbee, donc qui correspond au routeur dans le réseau Wi-Fi, qui fait une première, un premier réseau en quelque sorte. Mais après, si tu ajoutes un appareil Zigbee qui est lui-même alimenté en permanence, donc typiquement une ampoule, eh ben cette ampoule va devenir elle-même, alors on l'appelle routeur. Donc là, ça se complique un peu parce que c'est les mêmes noms, mais c'est en gros, il va créer un réseau autour de lui, autour de l'ampoule, de la même taille que le coordinateur. Donc concrètement, ça veut dire que t'es pas limité par la taille du réseau. Tu peux avoir un réseau Zigbee aussi grand que tu veux. Enfin, il doit y avoir des limites, mais on se comprend, quoi. Voilà, tu peux avoir un réseau aussi grand que tu veux. Et c'est assez pratique parce que plus t'ajoutes de périphériques Zigbee, plus ton réseau est grand et solide. Parce qu'après, en fait, il crée des liens entre eux. Et donc, s'il y a un élément qui est plus là, il passe par un autre routeur, etc. Donc ça, c'est quand même vachement pratique. C'est pour ça que je crois que c'est pareil pour toi, Cédric, mais moi, je favorise quasiment systématiquement le Zigbee.
Ouais, c'est sûr. Hein. Le Zigbee, c'est beaucoup plus simple. Après, Home Assistant, gère très bien ça, parce que si on peut faire aussi une petite parenthèse sur un protocole que j'avais utilisé avec JDOM, c'était le N-Ocean, qui était très bien pris en charge par JDOM. L'avantage d'N-Ocean, c'est qu'il y a beaucoup d'appareils qui fonctionnent sans pile, interrupteurs... énormément d'appareils qui fonctionnent par action mécanique ou alors qui consomment très peu d'électricité comme les capteurs température, tout ça. Donc j'avais trouvé le protocole assez intéressant et en fait sur Mastodon par exemple, c'est pas du tout pris en charge aussi bien que le Zigbee, et du coup j'ai vite abandonné à la faveur du Zigbee. Et on peut enchaîner sur le fait que, bah, du coup, vu qu'il y a beaucoup de produits qui utilisent des piles, Zigbee et les piles, c'est un peu, enfin les appareils, la domotique, les appareils connectés et les piles, c'est un peu une grande histoire d'amour. Je sais pas toi Nicolas, mais c'est un peu une galère à gérer.
Donc oui, les piles, c'est un problème de toute manière, parce que même si le Zigbee consomme beaucoup moins que le Wi-Fi, ça consomme quand même. Et effectivement, comme je disais tout à l'heure, l'exemple avec le détecteur de mouvement. De manière générale, quand tu utilises le pont du constructeur, tu peux espérer une meilleure autonomie qu'avec Home Assistant direct. Il y a des optimisations, Home Assistant, c'est un peu plus compliqué. Mais l'avantage en contrepartie de Home Assistant, c'est qu'il y a un peu des solutions pour tout. C'est du logiciel, il y a une grosse communauté, comme je disais. Et typiquement, là, j'utilise un module qui s'appelle Battery Notes. Alors, on mettra peut-être le lien quelque part. Mais ce module-là est assez génial parce qu'il a une base de données, mais sinon, tu peux lui dire. En gros, il dit chaque appareil sur pile, quelle pile c'est, déjà. Parce que c'est vrai que tu t'y perds un peu après entre les CR 2450, 2430, je sais pas quoi, t'as plein de normes, c'est tous des piles, les petites piles rondes là, c'est souvent ça que tu retrouves. T'en as plein des différentes. Et effectivement, moi j'ai un tiroir plein de piles de plein de variétés différentes. Mais là, le module, tu peux savoir ce que c'est. Et puis, tu peux lui dire aussi quand est-ce que t'as remplacé la batterie la dernière fois. Donc comme ça, t'as un peu une idée de combien de temps elle dure. Et tu sais, si ça fait, je sais pas, un an que t'as remplacé la pile et que tu sais qu'en gros, c'est tous les ans à peu près qu'il faut le remplacer, tu peux te dire, tiens, là, je peux me faire une automatisation pour m'envoyer une notification et dire, achète, enfin, vérifie que t'as encore une pile du type X et préparer. Donc, c'est vrai que c'est assez sympa de. Je trouve que c'est un des points forts de Home Assistant, ça, t'as vraiment des solutions un peu pour tout. Donc, typiquement, ça, c'est assez pratique.
Et donc les appareils HomeKit, est-ce qu'on peut les utiliser avec Home Assistant directement ?
Alors oui, ça c'était une bonne nouvelle que j'ai découvert après avoir testé, parce que je pensais que j'avais pas mal d'appareils exclusivement HomeKit. Donc ça, vous connaissez peut-être, c'est les appareils avec Matter, ça devient moins fréquent, mais à une époque, il y en avait pas mal qui fonctionnaient que avec HomeKit, donc si t'as pas HomeKit, l'appareil il te sert plus à rien. Et la souplesse de Home Assistant, c'est que tu peux non seulement, donc comme on disait tout à l'heure, transformer ton instance Home Assistant comme pont pour HomeKit, donc que ça, les appareils Home Assistant apparaissent dans Maison, mais tu peux aussi faire en sorte que Home Assistant soit reconnu comme un concentrateur HomeKit, c'est-à-dire que ton Home Assistant peut apparaître aux yeux des objets HomeKit comme un Apple TV ou un HomePod. Et ça, c'est vachement puissant parce que ça veut dire que tous les appareils HomeKit sont gérés par Home Assistant, avec des astérisques parfois, il y a des fonctions qui manquent, etc., mais de manière générale, typiquement les prises Eve, là, les trucs Nanoleaf, les produits Nanoleaf, tous ces produits-là qui étaient 100% HomeKit et qui souvent le restent, hein, parce que les Matter, c'est souvent des nouveaux matériels. Donc quand tu as encore des vieux produits qui étaient que HomeKit, tu peux les rajouter à ton Home Assistant et tu les perds pas. Avec un avantage supplémentaire qu'il faut souligner, c'est qu'ils fonctionnent en local. Parce que ça, c'est quelque chose dont on n'a pas forcément conscience quand on ne connaît pas la domotique. C'est vrai qu'il y a un peu deux classes de produits, ceux qui fonctionnent en local et ceux qui dépendent du cloud. Alors, nous, dans l'univers Apple, on a de la chance parce que HomeKit, c'est un protocole qui a été prévu pour fonctionner uniquement en local. Donc, tous tes appareils, quand ils sont HomeKit, ils fonctionneront en local. Mais quand tu es dans Google Home ou Alexa, c'est l'inverse. Tous les appareils, ils sont faits pour fonctionner avec le cloud. Ah, ouais. Par exemple, quand tu ouvres l'application Alexa, tu ne contrôles pas directement tes appareils, tu passes par un serveur. Ça, c'est aussi possible avec Home Assistant, bien sûr. Tu as encore des appareils qui nécessitent un serveur. De manière générale, je ne sais pas, Cédric, si toi, tu le fais aussi, mais moi, j'élimine au maximum tout ce qui nécessite une connexion Internet pour que la domotique fonctionne juste comme ça, quoi, en local.
Alors moi, j'ai juste un exemple d'appareil où je n'ai pas pu enlever ma chaudière atlantique. Du coup, qui utilise le protocole I/O de Somfy, protocole du coup hyper fermé, donc on peut pas utiliser avec Home Assistant. Et ben là, je suis obligé de passer par le cloud. L'intégration Home Assistant qui gère du coup tout l'univers Somfy, tu peux utiliser le local pour les appareils Somfy, mais pour les appareils Atlantique, voilà, toutes les autres chaudières, là tu es obligé de passer par le cloud et c'est vrai que c'est embêtant. Dès qu'il n'y a plus internet.
Oui, ouais, c'est mort.
Ouais. Je peux plus gérer.
Mais après, ça peut être une force aussi. Moi, je pense par exemple à certains produits Netatmo. Donc, Netatmo, par défaut, l'intégration, c'est 100% cloud. Mais comme certains sont aussi compatibles HomeKit, typiquement la station météo que j'ai ici, et ben, tu peux les ajouter avec HomeKit plutôt que les ajouter avec Netatmo. Et dans ce cas, tu retrouves un fonctionnement local. Donc, ça, c'est des subtilités que tu apprends un peu au fur et à mesure. Mais je trouve qu'il illustre bien encore la souplesse de cette solution et son universalité en quelque sorte, sachant qu'elle gère aussi, comme je le disais tout à l'heure par rapport à Matter, Home Assistant gère parfaitement Matter. Ce qu'elle peut gérer moins bien, c'est la partie matérielle, donc typiquement les appareils Thread et Matter. Là, on retrouve les problèmes de tout à l'heure, mais si tu as du Wi-Fi Matter, par exemple, ça marchera très bien.
Ok, et niveau mise à jour, c'est plus simple qu'avec HomeKit? Parce que comme je le disais, sur HomeKit, j'ai l'impression que dès qu'on fait une mise à jour, ça fait sauter la moitié des trucs.
Alors oui et non. Déjà, on peut dire que la particularité de Home Assistant ou par rapport à HomeKit, c'est qu'il y a des mises à jour régulières. Parce qu'en gros, HomeKit est mis à jour avec iOS. Et à quelques exceptions près, tu peux espérer une mise à jour par an avec la grosse mise à jour d'iOS. Donc là, par exemple, iOS 18 cette année, peut-être qu'il y aura du nouveau. Après, quand on juge aux dernières années, c'est rare qu'il y en ait. Mais bon, passons. Home Assistant, c'est pas du tout le même délire, c'est une mise à jour par mois, une grosse mise à jour par mois. Donc chaque premier mercredi du mois, t'as une nouvelle version.
Ouais.
Et quand je dis grosse, on s'en rend pas compte quand on est à l'extérieur, mais depuis que j'ai commencé, l'interface a été bouleversée plusieurs fois. Et assez récemment, par exemple en mars, ils ont sorti un tout nouveau tableau de bord où tu peux déplacer les éléments par glisser-déposer. Enfin, c'est une logique qui est complètement différente. Et en avril, donc la mise à jour de la semaine dernière, au moment où on enregistre, ils ont ajouté des outils pour organiser complètement la domotique. Enfin, c'est vrai, c'est vraiment des gros changements.
Ouais.
Par contre, mises à jour tous les mois, c'est cool. Mais moi, à chaque fois, j'ai un petit peu peur quand je mets à jour. Parce que la dernière, celle de février, j'ai mis à jour un peu tête baissée un matin avant de partir. Chose à ne jamais faire, vaut mieux être à côté, pas devoir partir au boulot.
Ouais.
Et du coup, je me suis retrouvé avec toute ma domotique cassée.
Ouf.
Ouais,
et la documentation encore.
Ouais.
Faut bien lire les notes de version.
mais heureusement qu'il y a le système de backup. Alors, je sais pas, Nicolas, tu peux peut-être expliquer.
En gros, par défaut, alors c'est un peu un défaut, je trouve, par défaut, quand tu as un Home Assistant, il n'y a pas de backup. Donc ça, il faut le savoir.
Ouais.
Et effectivement, contrairement à HomeKit, c'est Apple qui gère. Donc s'il y a un problème, la seule option, c'est qu'Apple se débrouille pour te sauver. Ce qui peut arriver, ce qui n'est pas toujours le cas. Bref, en tout cas, tu ne gères pas la domotique, en quelque sorte. Là, avec Home Assistant, c'est toi qui te débrouilles. S'il y a un problème, eh ben, c'est ton problème. D'où l'importance de créer des sauvegardes régulières. Donc il faut qu'elle soit automatisée, parce que sinon on oublie. Donc il faut que ce soit fait automatiquement, et il faut qu'elle soit distante. Il ne faut pas que ce soit sur l'appareil qui stocke lui-même Home Assistant, parce que s'il y a un problème avec l'appareil, tu ne pourras pas récupérer la sauvegarde. J'en ai parlé dans la série, donc si ça vous intéresse, vous pouvez retrouver les détails. Mais oui, il faut mettre en place ça, et pour être tranquille, donc c'est comme on disait un peu au début, Home Assistant OS, HAOS, a un gros avantage, c'est que si tu as un problème, tu peux restaurer une sauvegarde. Et ça m'est arrivé, alors moi, c'était pas une mise à jour qui avait cassé tout, mais c'était une bêtise que j'ai faite moi, voilà. j'ai cassé quelque chose et je pouvais plus accéder du tout à la domotique. Et là, j'étais bien content d'avoir une sauvegarde. Alors, c'était la nuit d'avant, donc j'ai perdu quelques heures de données, mais bon, c'était pas très grave. Et en quelques clics, tu peux restaurer tout. Ça, c'est quand même vachement pratique.
Ouais, c'est hyper important de d'avoir des backups, surtout quand on est dans ce un peu ce bricolage, parce qu'on a envie de bricoler, on a envie de créer des choses. Du coup, ça, voilà, ça permet d'avoir des parachutes. Ça, c'est cool. Ouais. De faire plein de backups, faut pas hésiter. Dès qu'on se dit, bah tiens, là je vais tester des choses, on fait un petit backup avant, on teste, et comme ça, si on casse tout, on a juste à revenir en arrière. C'est pratique, ouais.
Et donc, du coup, ça passe pas par l'appli maison, donc c'est eux qui ont fait toute leur interface, tout ça, et à ce niveau-là, c'est bien fait. Par exemple, pour gérer depuis l'iPhone, ça passe?
Alors, il y a une application mobile, donc ouais. Ça, c'est la bonne nouvelle. Okay. C'est à peu près tout. Ouais. Donc, non, bah, c'est ça.
Web, hein, c'est juste du web d'ailleurs. Okay, c'est juste le site qui est embarqué dans une appli.
D'accord.
C'est ça. Home Assistant, c'est un site web. Donc, sur mobile, t'as un site web mobile. Faut pas se mentir, c'est pas terrible. C'est pas. Voilà. L'avantage en contrepartie, il y a quand même des avantages, je trouve. Déjà, c'est pareil partout. T'as la même interface vraiment complète partout. Ouais. Et surtout, c'est à nouveau extrêmement souple. Tu peux tout changer. Tu vois même des gars qui se lancent dans des designs complets. En fait, tu peux vraiment modifier le thème de A à Z puisque c'est du web. T'as pas besoin de. C'est-à-dire que l'app maison, si tu l'aimes pas, bah voilà, débrouille-toi. Oui, ouais. C'est l'app maison, quoi. Tu peux rien faire. Là, tu fais ce que tu veux avec. Mais alors, pour dire vite fait, le principe de base, c'est donc tu as des tableaux de bord, ce qu'on appelle dans le vocabulaire Home Assistant. En gros, c'est des interfaces composées de cartes. Donc les cartes, tu choisis. Celle que tu veux mettre, et chaque appareil, chaque élément dans Home Assistant a droit à une carte. Donc tu as des cartes pour tout faire, tu as une carte pour gérer la lumière, tu as une carte pour gérer des graphiques, enfin voilà, tu as plein de cartes comme ça que tu mets sur une grille de cartes. C'est pas très joli. Moi, j'ai mon conjoint qui n'apprécie pas forcément l'esthétique, on va dire, donc des fois il est un peu rebuté. C'est pour ça que je vais peut-être passer à la maison comme avait fait Cédric, parce que je crois que ça va être plus simple. Mais bon, ça marche pas trop mal et comme je l'évoquais tout à l'heure, ils essaient d'améliorer ça, ils en ont bien conscience hein, évidemment, et notamment avec les nouvelles sections là qu'ils viennent d'ajouter, où tu peux déjà glisser-déposer les éléments de manière plus naturelle comme dans l'application maison, donc ça c'est pas mal.
Alors il faut savoir aussi qu'il y a quand même des applications sur l'App Store, il me semble, si je dis pas de bêtises, qui peuvent se connecter à ton Home Assistant et puis afficher... Un peu comme fait Eve avec HomeKit, tu vois. Enfin, c'est
bah,
voilà,
ce que je me demandais, ouais, justement. Parce que si tu peux bidouiller ton thème, je me disais, est-ce qu'il n'y a pas des mecs qui auraient fait justement leur propre application super chouette qui te vendrait 1 ou 2 euros?
Ouais, alors il me semble qu'il y a des trucs comme ça, mais il y a aussi surtout des gens qui développent directement des modules dans Home Assistant, et après, du coup, tu peux. Donc c'est quand même du web, et toi, tu peux l'afficher, mais du coup, et sur un iPad ou sur un iPhone, par exemple. Ouais. Et là, du coup, tu as une interface plus simple. Qui même il y a des thèmes qui se rapprochent même de maison où c'est hyper simplifié, okay, ouais. Où t'as le truc qui voilà t'affiches pile ce qu'il faut,
ouais.
Voilà, du coup, enfin moi j'ai commencé comme ça, après je suis quand même vite retourné à Home Assistant parce que bah du coup quand on commence à maîtriser un peu cette personnalisation de tableau de bord, bah si on aime bien bricoler, on a vite envie d'aller loin,
ouais.
Et de commencer à se dire, bah je veux tel graphique qui affiche telle coordonnée, telle abscisse, bah juste par exemple, j'ai un tableau de bord juste pour maintenant pour la gestion des piles, j'ai un tableau de bord qui m'affiche toutes mes courbes d'utilisation de mes piles, tous mes appareils, comme ça au moins je garde un œil. Faut que jette un œil au module de Nicolas, mais voilà, moi je fais un truc très simple.
Ok, ouais.
Donc ça c'est hyper puissant pour ça. La personnalisation de tableau de bord, et puis voilà, il suffit de regarder, jeter un œil dans la communauté francophone ou même mondial pour voir que en fait il faut juste avoir les idées, oui. Et après on peut tout faire.
D'accord.
Mais par contre il y a quand même un truc c'est ce que je trouve qui est pas facile dans Home Assistant, c'est que d'un côté tu vas avoir plein de choses que tu peux faire en clic-clic dans l'interface, et à un moment donné tu vas dire, ah tiens, je ferais bien juste ça, par exemple, j'ai pas d'exemple en tête, mais voilà, j'aimerais ajouter ça à mon graphique ou le bouton, je veux qu'il soit comme ça. Et là, tout de suite, on est un peu confronté aux limites de l'interface graphique.
Ouais.
Et du coup, là, Home Assistant, bah, du coup, il est quand même très souple. Donc, il te propose de passer dans un langage de configuration qui s'appelle le YAML. Okay. Mais voilà, si on s'attendait un peu à que du clic-clic, on est vite, on doit vite passer dans ce langage de configuration. Et du coup, là, ça... Enfin, moi, au début, ça m'a un peu perturbé en me disant, ah, j'ai pas trop le temps.
Oui.
Je pensais faire du clic-clic, ça va vite. Et en fait, faut que je réapprenne. Et
ouais.
Là, du coup, faut relire la doc.
D'accord, ouais.
Toi, je sais pas comment ça s'est passé, Nicolas.
Oui, non, c'est évident. Tu retombes assez vite sur du YAML dans pas mal de domaines. Parce que c'est tout ce qui est interface graphique, en réalité, sous le capot, ça manipule du YAML. Donc, effectivement, c'est pas très grand public, ça, faut bien le dire. Après, une fois que c'est fait, tu n'y touches plus normalement, mais oui.
Ouais.
Et le switch se fait très bien, c'est-à-dire qu'on peut très bien copier-coller, par exemple, un bout d'YAML sur Internet parce qu'on a trouvé un bouton bien, le copier sans... Enfin, le coller du coup sans savoir trop ce qu'il fait,
ouais.
Repasser vite fait dans l'interface graphique pour modifier le nom de quelque chose, des trucs qui sont gérés du coup en clic-clic par Home Assistant. Et après repasser en YAML pour finir la configuration. Je
D'accord.
trouve que ça, c'est... J'ai jamais eu trop de soucis de « Ah bah non, là, tu peux plus repasser dans l'interface graphique parce que t'as mis trop de trucs.
Okay, » ouais.
Ça gère bien
ouais,
le
avant-après. Ouais.
Voilà.
Okay.
Voilà, toujours pas hésiter. Faut pas hésiter à faire des petites sauvegardes pour éviter de...
Oui, ouais, évidemment.
Toujours.
Tout casser, ouais.
Ok. Et au niveau des automatisations?
Alors ça, c'est mon dada.
Oui.
Les automatisations, bah, déjà, peut-être rappeler vite fait ce que c'est. Mais il y a la même chose dans maison, hein. C'est un peu... En gros, la domotique, bah, une fois que tu as connecté tes appareils, soit tu les contrôles depuis l'interface de ton application domotique, donc depuis maison, depuis Home Assistant. Ça, c'est un premier truc, mais je trouve que c'est pas super intéressant. Ce qui est surtout le plus intéressant, c'est que tu peux automatiser tout ça. Donc une automatisation, c'est une série d'actions qui vont être exécutées lorsqu'un déclencheur, par un déclencheur, donc par exemple... Je sais pas, ça dépend. Telle heure est arrivée, le soleil s'est couché, telle personne est entrée, voilà, tout ce genre de choses. Et éventuellement avec des conditions. Donc le principe est toujours le même. Un déclencheur en entrée, des conditions qui disent bon bah non, on le fait pas ou oui, on le fait, et des actions. Allume la lumière, ferme les volets, etc. C'est le même principe partout. Par contre, dans Home Assistant, c'est beaucoup plus puissant, on peut aller beaucoup plus loin. Il y a énormément d'actions, énormément de déclencheurs, énormément de conditions possibles. Donc vraiment, les possibilités sont beaucoup plus étendues. Comme on en parlait à l'instant avec l'interface, c'est pareil avec les automatisations. Sous le capot, c'est du YAML, donc on peut aller encore plus loin avec le YAML. On peut faire même des... On peut mettre une logique de code carrément, si on veut. On peut vraiment aller très très loin. Alors, ça fait peur, je pense, à beaucoup de gens, de base des automatisations, mais d'autant plus celle d'Home Assistant. Moi, je trouve que ce qu'il faut rappeler, c'est que cette complexité peut en réalité apporter pas mal de simplicité. Je m'explique. Quelque chose qui est très trop compliqué, je trouve, dans maison, c'est si tu veux allumer ou éteindre une lumière, bêtement. T'as un interrupteur au mur, tu veux dire, bah, quand je clique dessus, si la lumière est allumée, je l'éteins, si la lumière est éteinte, je l'allume. Mmh. Ça paraît tout bête. Et ben avec HomeKit, il faut ajouter une condition si, et dire si c'est allumé, alors tu éteins, si c'est éteint, alors tu allumes. Cette complexité-là, en réalité, elle n'existe pas dans Home Assistant, parce qu'il y a une fonction qui s'appelle basculer la lumière. Et donc tu peux dire, quand je clique sur le bouton, tu bascules la lumière et il se débrouille. Et c'est vrai que c'est souvent comme ça. Il y a beaucoup d'options, ça part un peu voilà, dans tous les sens, on peut faire énormément de choses, mais les automatisations peuvent être ultra simples. Ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier, hein. La domotique, c'est pas forcément compliqué. Et donc tu peux dire effectivement, bascule la lumière, c'est vraiment l'exemple que je trouve le plus intéressant. Tu cliques sur un bouton, tu t'en fous, il va basculer la lumière, etc. Il y a un autre truc qui est très agréable.
Si je peux apporter un truc sur la bascule, ouais, une petite anecdote, c'est qu'il y a quand même 2-3 cas à gérer. Par exemple, si j'ai 6 spots dans la cuisine, si par inadvertance, donc normalement c'est un truc qui arrive jamais, mais si j'en ai allumé qu'un seul de spot, par exemple, je sais pas, voilà, j'ai peut-être une automatisation qui allume une lampe, je sais plus comment c'est arrivé, bah, l'interrupteur qui envoie la fonction, la bascule de lumière, bah du coup il va éteindre le spot et allumer les 5 autres.
Ah, ouais,
et là du coup
fait.
On rentre dans une boucle infinie.
D'accord,
de...
ouais.
C'est, ouais, ça se passe pas comme on a envie.
Mais t'as 12 solutions différentes et notamment une que j'aime bien, c'est que tu peux lui dire bascule la pièce par exemple, ou bascule un groupe de lampes, et dans ce cas il le fait bien. C'est vrai que t'as des trucs comme ça, c'est assez puissant. Après c'est aussi du temps et il faut apprendre,
faut
à les utiliser,
mais...
Et alors l'autre truc qui est génial avec les automatisations de Home Assistant, au-delà de la complexité qui peut être plus simple, comme je disais, je reviens un peu à mon argument sur HomeKit au début, c'est la fiabilité. C'est-à-dire que les automatisations, elles sont toutes liées à un historique.
Ouais.
Et tu sais quand est-ce qu'elle s'est déclenchée. Non seulement ça, mais tu sais pourquoi elle s'est déclenchée, donc quel est l'élément qui a fait qu'elle s'est déclenchée. Tu sais si les conditions étaient remplies ou pas, et tu sais si les actions ont été exécutées ou pas. Et avec ces données-là, On pourrait dire, oh là là, c'est trop compliqué, ça m'intéresse pas. Moi, je trouve que c'est au contraire plus simple parce que tu sais si tu as mal configuré quelque chose ou alors tu sais s'il y a un bug. Par exemple, si tu lui dis d'éteindre une lumière qui n'existe pas, je donne un exemple au hasard, ça va pas marcher, effectivement, ça, voilà, parce qu'elle n'existe pas. Mais il va te dire, eh ben, j'ai essayé d'éteindre la lumière X, ben, la lumière X, je l'ai pas trouvée. Mmh. Et comme ça, tu sais comment corriger. Alors qu'à nouveau, si on revient au système grand public, on parle de maison parce que c'est celui qu'on connaît avec Cédric, mais c'est pareil partout, c'est une boîte noire. Tu sais pas si ça s'est lancé, tu sais pas pourquoi ça a pas marché, si ça a pas marché, tu peux juste constater dans le monde réel, ah bah voilà, ce qu'il devait faire n'a pas eu lieu, je sais pas pourquoi. Mmh. Et ça, je trouve que cette traçabilité dans Home Assistant, c'est vraiment un point fort.
C'est vrai que les automatisations, les deux grosses forces, je trouve, de Home Assistant, c'est justement, c'est un peu ce côté historique, ce que tu disais là, c'est de dès que tu mets quelque chose, dès que tu rentres quelque chose dans Home Assistant, même juste, tu l'installes, il log tout. Donc tu peux,
oui.
Du moment où tu l'as installé, si tu as utilisé ton iPhone pour te connecter, voilà, il va te dire tu t'es connecté, connecté sur Home Assistant à telle heure. Du coup, n'importe quel objet. Donc déjà, tu peux voir comment tes objets fonctionnent et du coup dire ah bah tiens, il y a une donnée là qui est intéressante, je vais en faire une automatisation. Et voilà, et le deuxième gros truc, c'est les automatisations. Bah, c'est, je trouve, enfin. La domotique, c'est vraiment tout tourne autour des automatisations. Dès que tu veux créer une suite d'actions, ouais. T'es obligé d'utiliser tout ça, quoi.
Et donc, du coup, on a dit beaucoup de bien de Home Assistant, mais j'imagine qu'il y a quand même quelques défauts, non ?
Aucun.
Aucun ? Très bien, j'achète. Je commande mon boîtier.
Non, il y a quelques domaines qui sont pas bons avec Home Assistant encore. Faut le savoir avant de commencer, je pense. Il y en a plusieurs, mais j'en retiendrai deux.
Ouais.
Donc le premier, c'est les assistants audio. Alors je sais pas si les auditeurs ont noté, mais on en a pas parlé jusque là. C'est pas pour rien, c'est-à-dire que maison à Siri, Alexa, Google Home à Google Assistant, ouais. Ils ont tous des assistants plus ou moins capables. On va pas entrer dans ce débat. Mais dans l'univers d'Home Assistant, il n'y a pas réellement encore cette fonction. Ça va venir. Il y a un travail qui est en cours pour créer un assistant audio qui est entièrement local et entièrement open source, parce que c'est la philosophie du logiciel.
Ouais.
Mais on en est encore très loin, faut bien le dire, j'ai testé. Y a aussi des idées, alors j'ai testé aussi, c'est pas mal, où tu branches ChatGPT ou une autre intelligence artificielle comme ça, qui peuvent t'aider, parce qu'un des gros problèmes des assistants vocaux, c'est le langage naturel. T'as pas envie de dire éteins la lumière qui s'appelle salon-lumière bas, ou un truc comme ça, c'est insupportable. Ouais. Voilà. Et cette dose d'intelligence qui est nécessaire, elle est compliquée à créer. Donc, il y en a qui passent par ChatGPT. Il y a des solutions, mais globalement, si vous dépendez d'un assistant vocal et si vous comptez absolument l'avoir, Home Assistant, c'est pas l'idéal pour vous.
Ok.
Là, c'est pour ça que, par exemple, moi, je garde HomeKit pour ça, enfin maison. C'est clairement pour Siri.
Ouais,
pour ouvrir les volets, allumer les lumières. En fait, du coup, voilà, Siri, du coup, fait le pont avec Home Assistant derrière. Ça marche très bien. Hein.
Et du coup, l'autre domaine que je voulais mettre en avant, c'est les caméras. Parce qu'alors, à nouveau, HomeKit, pour le coup, est pas trop mauvais, même s'il y a des défauts, mais avec les caméras qui sont avec vidéo sécurisée HomeKit, donc la prise en charge complète, t'as une détection intelligente des personnes, des voitures, etc., même des visages. T'as du stockage dans le cloud, t'as plein de trucs. Là, il faut savoir qu'avec Home Assistant, par défaut, il n'y a quasiment rien. C'est très, très limité. Tu peux voir le flux, tu peux enregistrer parfois, mais t'as aucune intelligence artificielle, t'as rien du tout. Donc ça, si t'as beaucoup de caméras, Home Assistant, c'est pas l'idéal. Même si, étant donné que c'est une solution très souple, en réalité, ce que tu peux faire, c'est brancher un module supplémentaire, un logiciel supplémentaire, qui va remplacer, par exemple, la vidéo sécurisée HomeKit. Donc là, je suis en train de tester une solution qui s'appelle Freegate, qui exactement ça, c'est son rôle, c'est d'analyser des flux vidéo de caméras pour trouver des personnes, des chats, des chiens, ce que tu veux, et le cas échéant, enregistrer et puis notifier. Voilà. Donc je suis en train de tester. Je ferai des articles là-dessus, au moins un, peut-être plusieurs, parce que c'est assez compliqué. Je veux pas spoiler, mais en gros, c'est plus compliqué que ce que je pensais. C'est plus compliqué que HomeKit. Donc à nouveau, si les caméras c'est quelque chose d'important, etc., faut se méfier. Ouais. Home Assistant, ça sera pas idéal pour ça.
D'accord.
Après, c'est ça qui est bien. On peut faire cohabiter plusieurs systèmes entre eux. Ce sera pas tout dans Home Assistant, Mais moi, c'est vrai que les caméras, j'ai gardé HomeKit Secure Video, parce que du coup, l'Apple TV fait un super travail de détection. C'est vrai que ça marche bien pour Ce qui me sert, mais du coup mes caméras aussi vont dans Home Assistant pour d'autres choses, donc du coup voilà, ça gère les deux. Moi je voulais juste dire un truc, moi il y a un truc où j'ai été confronté, où je me suis dit ah zut, j'avais pas vu ça comme ça. Justement c'est au début on se dit ah bah tiens, tout HomeKit est géré, c'est un peu, on lit un peu ça partout dans la documentation. Donc comme a dit Nicolas, c'est facile d'ajouter un produit HomeKit dans Home Assistant, ça y a pas de souci. Mais moi par exemple, je voulais récupérer, j'ai des HomePod dans plusieurs pièces de ma maison, des HomePod mini avec capteur d'humidité, capteur de température, que je trouvais cool de pouvoir remonter dans Home Assistant. Et ben c'est impossible, enfin c'est très compliqué de le faire, et de mémoire.
C'est la faute d'Apple.
Ouais, alors, bien sûr, mais du coup c'est un truc où on se dit ah bah finalement c'est possible, et en fait pas du tout. Et donc c'est aussi ça, faut voir loin dans le projet domotique. Moi du coup j'ai fait ça un peu sur un coup de tête en disant ouais, j'en ai marre de HomeKit, je suis passé à HomeAssistant. Et du coup voilà, il me manque des choses. Et ouais, juste pour la petite anecdote, ce que j'ai vu une façon de faire, c'est d'utiliser un iPhone avec une automatisation dans l'iPhone qui va récupérer toutes les X temps, la température et l'humidité des HomePod, et la renvoyer via du coup le web, en appelant une API d'Home Assistant pour lui envoyer les données. Du coup, je me suis dit, ah ouais, donc faire tout ça à travers l'iPhone, donc, ça veut dire qu'il faut être sur place.
Ouais, c'est quand même du boulot.
C'est du boulot pour récupérer. Alors que oui.
Et puis ces capteurs sont pas super fiables en plus, donc je sais pas si ça vaut le coup.
Non, mais c'était pour avoir à peu près. C'est vrai que c'était plus pour remonter des données. En fait, quand on est dans Home Assistant et qu'on voit tous ces graphiques, on a envie de remonter un max de données pour voir, on devient datavore.
J'ai l'impression que c'est une installation qui demande quand même pas mal de bidouilles. Du coup, Home Assistant, c'est pour qui? Vous l'installeriez par exemple chez vos parents qui s'y connaissent pas forcément, qui ont juste maison sur leur téléphone?
Il faut déjà du temps.
Ouais.
Je pense qu'il y a un côté passion, un côté bricoleur. Voilà, les gens qui aiment bien passer du temps, faut pas avoir peur de tout casser, faut pas avoir peur de... Donc c'est vrai, je pense que ça peut s'installer chez des parents en vrai pour faire quelque chose qu'on... Si tu maîtrises, si par exemple déjà chez toi tu as déjà des choses que tu as mis en place et que par exemple chez tes parents ils veulent à peu près la même chose, moi je me dis bah voilà, avec un Raspberry qui est déjà préconfiguré, des objets connectés très simples, tu peux voilà commencer facilement par l'installer un peu chez des gens. Moi ça me... comme ça je me dis pas que c'est une mauvaise idée, mais bon oui, c'est comme tous ces trucs... open source, c'est toi qui vas faire le SAV, donc
oui,
du coup...
faut prévoir un peu de temps.
Voilà, faut du temps.
C'est ça, faut se dire que c'est toi qui gères l'installation, qui gère les mises à jour, qui gère tout ça, parce qu'ils le feront pas, ça c'est sûr.
Oui,
ça reste plus compliqué que... Mais je pense que c'est faisable. Et puis, il y a la souplesse, on y revient encore, mais c'est vrai qu'une des bonnes options, c'est... Donc tu peux faire comme Cédric a fait, tout remonter dans maison, donc que tu leur configures, et eux ils se rendront même pas compte qu'il y a Home Assistant en fait en dessous. Mais tu peux aller plus loin, tu peux dire bah tiens, si t'as un vieil iPad ou même une vieille tablette sous Android, peu importe, on peut la mettre au mur et afficher Home Assistant dessus. Il y a des solutions, il y a un module qui s'appelle Kiosk là, qui est assez populaire, ça n'affiche que le site web, un peu comme si c'était une app, voilà, tu peux pas la quitter. Et là-dessus, tu peux mettre tous tes contrôles et de domotique. Et ils savent même pas que c'est Home Assistant. T'as même des écrans, de plus en plus ils font ça, des écrans qui se branchent à la place des interrupteurs. Ça c'est pas complètement idiot parce que ils sont alimentés comme ça, tac, et puis t'affiches un bouton pour la lumière comme avant, et puis tu peux afficher je sais pas ce que tu veux, les volets, le chauffage, etc. Mais voilà, il y a quand même des options. Après, la personne qui maintient derrière, oui, ça faut être geek, je pense. Je pense que les auditeurs l'auront bien compris.
Et donc vous, dans vos foyers, là, l'arrivée de Home Assistant, ça s'est bien fait
vos... Moi, c'était transparent avec HomeKit. Moi, vraiment, pour mon cas, vu que je venais d'HomeKit pour tous les interrupteurs avec une latence, et ça, c'était plutôt problématique dans le foyer, parce que du coup, la fiabilité, des fois, ça marchait pas. Alors que là, du coup, Home Assistant, depuis que je l'ai mis, on est sur une stabilité parfaite, tous les interrupteurs fonctionnent. Du coup, en plus, avec la gestion des piles, je vois que j'ai plus de problème de ah, l'interrupteur marche plus parce qu'il n'y a plus de piles. Ça, j'arrive à l'anticiper. Donc, non, là, moi, ça a changé ma vie de domotique. Après, je conseille pas de quand on construit une maison, d'enlever tous les interrupteurs et de passer full domotique parce que voilà, ça.
D'ailleurs, si j'ai un conseil à faire de ce côté-là, c'est de viser un peu de... Pardon. Si j'ai un conseil à faire de ce côté-là, c'est d'améliorer la maison, ce qui existe, sans enlever de fonction. Alors, je m'explique. Si vous avez déjà des interrupteurs filaires, ce qui est le cas de la plupart d'entre nous dans le mur. L'idée, c'est d'essayer de garder des interrupteurs, pas forcément les mêmes, mais d'essayer de garder des interrupteurs au même moment, qui fonctionneront même si la domotique ne marche plus. Ça, c'est un peu l'idéal. Mmh. Donc, il y a plusieurs solutions. Soit, alors, ça dépend ce qu'on veut, mais par exemple, dans les couloirs chez moi, il y avait plusieurs lumières qui étaient gérées par un télérupteur. Donc, un télérupteur, c'est un module dans le tableau électrique, dans le garage ou peu importe où il est chez vous. Mmh. Donc, avec des interrupteurs poussoirs, eh ben, tu peux acheter un télérupteur connecté. L'avantage, c'est qu'il fonctionne comme interrupteur bête aussi. Donc, tu peux l'allumer et l'éteindre avec Home Assistant. Tu peux l'allumer et l'éteindre avec les interrupteurs physiques. Ça, mmh. c'est un peu l'idéal. Parce que du coup, s'il y a un problème, ça se voit pas, tout fonctionne comme avant, etc. C'est pas toujours possible. Donc voilà, ça se passe pas toujours après très bien. Bon, moi j'ai eu la chance de vivre avec quelqu'un de patient, mais c'est vrai qu'il y a des fois où des trucs marchaient un jour et marchent plus le lendemain parce que c'est moi qui bricole, parce ouais. que voilà. Des fois c'est un peu compliqué quand sur le moment quelque chose marche plus, c'est vrai que. Mmh. Mais bon, avec le temps aussi, on voit effectivement les appareils qui fonctionnent bien, ceux qui marchent pas.
Ouais.
Qu'est-ce que ça donne et... Pour les personnes autour de nous, ça peut être tout à fait. Ça peut ne pas poser de problème du tout. Ouais.
D'accord, ouais.
Ouais, mais il, je pense qu'il a raison aussi. C'est au sein du foyer, il faut quand même prévenir. Ça peut être. Ouais, on peut avoir quand même des grosses galères. Mm. Je pensais à un truc là. Les You, ils ont intégré assez tard d'ailleurs, parce que moi, ça fait un moment que je les ai, la reprise de l'état précédent
ouais.
en cas de coupure de courant.
Ok.
Avant, coupure de courant, ça allumait les lampes. Donc en pleine nuit, s'il y a une tempête, oui. dans la chambre, ça allume.
Ouais.
Et ben moi, Home Assistant, j'ai trouvé le moyen d'oublier de remettre l'état précédent. Ben, il y a eu une coupure dans la nuit, on a eu la chambre allumée à 4h du matin.
Ah, ouais.
Donc heureusement, voilà, ça se passe bien. Mais du coup, c'est vrai que c'est la domotique, vu que c'est quelque chose... Enfin, ça va utiliser des objets de la vie courante. Ça peut, voilà...
Oui, ça peut amener à des couacs, ouais. Et niveau communauté, pour Home Assistant, ça se passe comment? Il y a beaucoup de forums, t'as un énorme subreddit.
Ouais.
Niveau français, il y a...
Français, il y a ouais. pas mal de choses. J'ai été hyper surpris par la communauté Facebook.
Ok.
Hyper active. Enfin, ouais, à chaque fois, ouais. je passe un peu dessus rapidement. C'est pas le médium où je vais le plus souvent, mais je vais voir, parce qu'il y a des gens qui ont des choses à dire. Je pense que c'est aussi... il y a une question de génération, je pense que c'est pas la même génération sur Facebook.
Peut-être aussi, ouais.
Sur Reddit, comme tu dis, c'est plus quand même américain, enfin plus anglophone. Ouais. Mais les forums de Home Assistant sont hyper complets. Je pense que c'est la première mine d'informations.
Ok, ouais.
Après, si je dois dire un truc, c'est quand même un peu le foutoir. Pour trouver des infos, pour des fois, on cherche un truc et c'est vrai qu'on trouve 1000 trucs, donc. Moi, je pars du principe que je prends quand même le plus récent.
Ouais.
Parce que voilà, entre la version d'Home Assistant, les trucs qui ont été intégrés, parce que voilà, y avait des trucs communaux, enfin, des trucs qui ont été développés à côté, qui ont après été intégrés dans Home Assistant.
Ouais.
Donc on est un peu perdu là-dedans. Donc voilà, pour faire le tri, moi, je prends le plus récent à chaque fois.
Okay, ouais.
Ça permet un bon point d'entrée.
Non, oui, les forums sont une source précieuse d'informations, mais oui, il y a beaucoup d'historique, hein, parce que. Ça fait quand même plus de 10 ans que ça existe. Donc
Et la doc est en français?
Non.
Non, ouais, faut savoir quand même un minimum parler anglais si tu veux te lancer là-dedans.
C'est une bonne remarque, oui. Si tu maîtrises pas l'anglais, c'est mort.
Ouais. Ou alors acheter ton excellent livre qui apprend tout de A à Z.
C'est une excellente idée, tu fais bien le suggérer. Pour les abonnés du club, il y a aussi la série, c'est la même chose en accès libre.
Ouais.
Mais elle est longue, hein, cette série et ce livre, mais j'aborde pas grand-chose par rapport à tout ce que tu peux faire.
Oui. Ouais.
C'est vrai que... Être capable de lire et comprendre la documentation, c'est quand même, je pense, important. Sauf si tu as un usage vraiment très léger, quoi. Mais oui, dès que tu veux rentrer un peu dans le détail, il vaut mieux, comprendre l'anglais.
La communauté francophone est telle que il y a quand même pas mal de sites spécialisés qui en parlent d'Home Assistant. Il y a aussi beaucoup de chaînes YouTube qui traitent des sujets. C'est, voilà.
Oui,
je pense que même si tu la doc, ça va être compliqué, mais suivre des tutos en français, c'est possible. Et du coup...
De plus en plus, ouais.
Voilà. C'est difficile de conseiller sans lire la doc, mais là, je pense qu'on peut quand même se débrouiller en full français. Puis après, de toute façon, il y a des mots-clés qui reviennent, même si sont anglais, qui vont revenir. Donc après, la doc, est plus simple de, voilà, quand on commence à connaître Home Assistant, lire la doc en anglais ça va, parce qu'il y a beaucoup de choses qui y reviennent.
Ouais. Non, puis c'est vrai qu'avec YouTube plus les sous-titres, oui, tu dois réussir à te débrouiller quand même. Eh ben merci à vous deux de nous avoir présenté un petit peu tout ça. Moi, ça m'a presque donné envie de me lancer dans l'aventure de la domotique.
Comment ça, presque?
Presque, presque. Eh ben ouais, merci Cédric, à bientôt.
Merci Félix.
Ouais, Nicolas, merci pour tes explications.
Salut.
Et nous, on se dit à bientôt pour un prochain podcast. Ciao, ciao. Bye bye.